Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission exceptionnelle qui ne sera pas dédiée à une maladie rare en particulier, mais qui est consacrée à la filière de santé Philnemus, la filière de santé des maladies rares neuromusculaires, et au projet qu'elle pilote depuis quelques années pour combattre l'errance et l'impasse diagnostique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Sharam Attarian. Professeur Attarian, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Professeur Attarian, vous êtes neurologue, professeur des universités à la faculté de médecine d'Aix-Marseille et praticien hospitalier, chef du service des maladies neuromusculaires et SLA à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes également coordonnateur de la filière Philnemus, qui est pilote sur ce projet pour combattre l'errance et l'impasse diagnostique. Et c'est à ce titre qu'on vous reçoit aujourd'hui, bien sûr. Alors, pour débuter notre entretien, professeur Attarian, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de la filière Philnemus ?
L'objectif final pour le projet l'errance et l'impasse diagnostique a été et est toujours un diagnostic pour tous en un an. C'est une action majeure de troisième plan maladie rare, plan national de maladie rare, et cette action, cet objectif a été à l'initiative d'une réflexion menée conjointement entre la filière et l'AFM Téléthon. Alors, pour répondre à ce diagnostic, à cet objectif, il fallait faire un état de lieu. Donc, l'objectif, on va dire intermédiaire, a été la constitution d'un registre national dynamique de personnes en errance et impasse diagnostique à partir de bases de données nationales maladies rares, BNDME.
Et donc, en 2019, vous avez été pilote pour ce projet, errance et impasse diagnostique. Quels sont les premiers résultats de ce projet ?
Effectivement, donc, après la constitution de cette base de données, il fallait évaluer la faisabilité. On a effectué une phase pilote au niveau de trois centres pour, comme je le disais, évaluer la faisabilité, de voir la pertinence des items, des questions posées par la base de données. Ensuite, il y a une première phase qui a démarré en 2020, je vous rappelle, pendant la période de COVID, la mise en place de cette base de données au niveau de 69 centres de référence et de compétences de la filière, le démarrage de cette action de recueil de données riches des informations et des enseignements qu'on avait tirés de phase pilote, dont l'objectif était d'identifier les obstacles et les causes d'errance et impasse diagnostique, et ensuite identifier le taux de résolution ou de sortie d'errance et impasse diagnostique des patients par an, pour finalement répondre ou évaluer plutôt cet objectif qui s'était fixé par un PNMR3, qui était un diagnostic pour tous en un an.
Alors justement, combien de patients préalablement identifiés sans diagnostic ont pu obtenir ce diagnostic confirmé depuis le début du projet ?
Alors, d'abord, il faut dire, le projet a bien fonctionné, a été réussi. Encore une fois, ça a été mis en place et déroulé pendant la période COVID 2020-2021. Ça a été une période très difficile. Donc, malgré tout, on a respecté le timing. Et puis, 30 000 dossiers de patients qui étaient de la filière Philnemus, 50 000 environ, ont été examinés. Nous avons identifié 7 000 patients qui étaient en errance ou impasse diagnostique. Alors, pour rappel, errance diagnostique, ce sont les patients qui sont rentrés dans le centre de référence pour avoir des examens, mais il y a une rupture de contact, c'est-à-dire tous les examens n'ont pas pu être faits pour des raisons diverses et variées. Probablement, on va en parler après. Et puis, impasse diagnostique, c'est l'état des patients. Tous les examens ont été faits selon l'état d'art et malgré tout, Aucun diagnostic n'a été obtenu. Donc, 5 000 en errance diagnostique et 2 000 patients environ en impasse diagnostique.
Et concernant cette ambition d'identifier justement les causes de l'errance diagnostique, alors même si les résultats définitifs sont attendus pour mi-2024, est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion ?
Oui, alors, encore une fois, ce projet a été très riche d'enseignements. Ce qui permet un pilotage d'identification d'obstacles où le taux de sortie d'errance et d'impasse permet de piloter des actions pour les réduire. Alors, la première question posée était, est-ce qu'il y a une discrimination des patients en France, la discrimination qui peut être liée à l'IO de vie la région, la richesse de la région, la disponibilité des plateformes. Et puis, une deuxième question qu'on se posait, est-ce qu'il y a les rentes et impasses peuvent avoir un lien avec le niveau de revenu, pour vous dire. Cette étude a montré qu'une fois les patients arrivés au centre de référence ou compétences, il n'y avait pas une discrimination selon les régions, selon la richesse, enfin le niveau de revenu. C'est-à-dire en France, une fois que vous arrivez dans un centre de référence ou compétences, le soin est homogène pour tout le monde, ce qui montre la richesse et l'intérêt de ce système de réseau de centres de maladies rares en France, qu'il faut absolument se battre pour le garder. Ensuite, on constate qu'une partie importante d'errance en diagnostic est liée à le parcours de patient avant d'arriver au centre. Il y a un délai qui est trop important. C'est un délai qui est en moyenne autour de 10 ans. Cela dépend effectivement de pathologie, mais de manière en général, en moyenne, un patient met 10 ans avant d'arriver à un centre de référence ou compétence pour le diagnostic de sa pathologie. Et c'est là où il faut qu'on mène des actions importantes pour réduire justement ce délai d'errance. Ce sont des actions de formation de personnel médical, paramédical, la formation des patients et ce type d'action qu'il faut mener. Une fois que les patients arrivent dans les centres experts, le délai, d'errance est plutôt lié à les délais de rendez-vous, des différentes consultations ou des examens. Et puis, une partie importante quand même est le délai de rendu des résultats. En particulier pour les laboratoires génétiques, ce délai est vraiment très long et pour une grande partie, ce délai est expliqué par manque de personnel formé, généticien, technicien de laboratoire, pour pouvoir répondre à vos besoins actuels. Donc, de manière globale, une fois que le patient arrive au centre, ce sont les manques de moyens qui peuvent expliquer en partie ce délai. Alors, il faut dire que les progrès techniques sont tels qu'il faut une réévaluation des moyens au niveau des centres. Ensuite, il y a l'errance diagnostique. 50% de patients qui ont rompu le contact avec le centre. Les raisons sont multiples et variées. Pour certaines pathologies, le patient ne voit pas l'intérêt de revenir vers le centre parce qu'il n'y a pas de traitement. Ils pensent qu'on ne peut rien faire. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est une erreur. Il y a toujours quelque chose à faire. Ensuite, il y a des raisons diverses et variées. Le patient, c'est son souhait. C'est son souhait de ne plus continuer parce qu'il ne souhaite pas savoir. Ou il y a des contraintes de vie. Enfin, des raisons multiples. Alors, il y a une action importante qu'on a mis en place avec conjointement avec une collaboration étroite avec la FM Téléthon. Pour informer les patients des progrès, de l'intérêt de revenir vers le centre. Et cette action a été réussie. Et pour une partie, les patients ont été réadressés vers le centre grâce à cette action de l'AFM Téléthon. Voilà. Mais la grande leçon, c'est qu'il n'y a pas de discrimination parce que vous êtes dans un désert médical, parce que vous avez un niveau social ou économique plus bas. Voilà. Ces raisons-là ne jouent pas en France, alors qu'on peut imaginer dans d'autres pays occidentaux peuvent être facteurs d'errance et discrimination.
Alors, on a déjà effectivement des pistes qui sont très, très claires. Et pour conclure, professeur Attarian, quelles sont les prochaines étapes?
Les prochaines étapes, on voit que l'action, c'est un objectif qu'il faut, qui est important, hein, c'est, et qu'il faut continuer. Donc, on espère le continuer avec le plan suivant. Et puis, j'ai oublié de vous dire, une des informations importantes, c'est que pour l'instant, le taux de sortie, c'était deuxième phase, le taux de sortie d'errance et impasse, c'est entre 15 et 20%, ce qui est largement insuffisant. C'est-à-dire, en un an, on a les diagnostics pour 15 à 20% de ces patients qui sont en errance et impasse diagnostique. Donc, on est loin d'objectif, qui était, encore une fois, un diagnostic pour tous en un an. Alors, évidemment, il faut continuer déjà à monitorer cette action, c'est-à-dire à continuer ces actions qui sont en place pour avoir un feedback. Ensuite, revenir pour ces patients qui sont en errance diagnostique, en collaboration avec les associations, et les rattraper vers le centre, de les informer des progrès techniques. Ensuite, il faut agir au niveau, avant l'adressage au centre de référence, par le parcours de soins, c'est-à-dire la formation, l'information de l'ensemble des soignants qui sont dans le parcours de patients pour réduire ce délai qui est trop important. Le délai de 10 ans en moyenne, c'est trop important. Et une partie, je vous ai dit aussi, d'adhérence est liée aux les moyens qui ne sont plus adéquats aux progrès techniques. Donc, il faut essayer de les obtenir. Ensuite, il y a les progrès techniques. Hein, les progrès techniques, les patients actuellement qui sont dans un passe diagnostique, une partie, c'est que la science n'a pas assez avancé pour répondre à ces patients-là. Donc, ces patients qui sont identifiés, à garder le contact. Comme je vous disais, il y a toujours quelque chose à faire au niveau de soins en attendant que les progrès techniques permettent de faire le diagnostic exact chez ces patients-là. Mais le message important, c'est quand même la durée d'errance diagnostique avant l'arrivée des patients au centre. Sur ça, il faut absolument agir. C'est une action majeure. Deuxième action majeure pour réduire l'errance en passe diagnostique, ce sont ces patients justement qui sont en dehors des centres. Essayer de le convaincre de revenir vers le centre, de reprendre le parcours de soins pour essayer d'apporter un diagnostic et éventuellement un traitement.
Eh bien, merci professeur Attarian de nous avoir fait mieux connaître ce projet très important piloté par la filière Finnemus pour combattre l'errance et la passe diagnostique. Quant à nous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare. À très vite.